Continuons avec Alicia Titiarisi, qui est psychologue et qui intervient comme co-thérapeute dans les deux consultations de psychiatrie transculturelle à l'hôpital Avicenne et à la maison des adolescents à Cochin, pour une intervention, les mots écoutés, les mots dessinés, les mots joués, les enfants dans le groupe de la consultation transculturelle.
Alors, on est là pour s'interroger sur comment on apaise les enfants dans la consultation transculturelle. Donc, bien sûr, on parle du groupe transculturel de Cochin et d'Avicenne, de Bobigny, de Marie-Rose Moreau. Je vais éviter de vous raconter comment les groupes se structurent, mais c'est, parce que je pense que tout le monde le sait, mais c'est à peu près comme ça, voilà, avec le thérapeute principal et tous les autres thérapeutes qui prennent leur place, les places pour la famille et les membres de la famille, l'interprète au milieu entre le thérapeute principal et la famille, et tous les co-thérapeutes, les invités, les étudiants, les stagiaires, quelqu'un qui prend les notes, et au milieu, les enfants avec les tablettes et les jeux, les papiers, les couleurs et tout ça. Donc, d'où on parle tout particulièrement d'Avicenne, je pense que c'est bien de voir où on se situe. Donc c'est là qu'on fait le groupe le mercredi matin, avec, vous voyez, Marie-Rose Moreau. Quand elle n'est pas là, c'est Isabelle qui prend sa place, François. Là, c'est un moment de détente où on parle avec une stagiaire qui venait juste de prendre les notes. Et voilà. Mais on ne va pas parler de toute la consultation, on va parler de ce qui se passe au milieu, dedans la consultation, c'est-à-dire là. Parce que on est appelé dans la consultation transculturelle à on reçoit les familles des migrants, mais surtout on reçoit les enfants des familles des migrants. C'est d'ailleurs surtout pour eux qu'on est appelé à mettre en place un suivi de deuxième intention. C'est-à-dire que ce sont les écoles, les médecins, les différents psychiatres ou psychologues, les référents, les centres qui s'occupent des enfants, qui peuvent appeler et demander qu'on met en place un suivi transculturel. Donc, on va parler des enfants. Les enfants dont chacune et chacun a sa manière de rentrer dans le groupe. Tous les enfants connaissent les règles du groupe, mais ils choisissent comment y rentrer. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir de s'asseoir sur une chaise, comme les grands, par exemple là, à côté, comme maman et papa, et rester très sérieusement en train d'écouter, ou ils peuvent décider de s'élancer sur les jouets, ou par contre, ils peuvent être en pleine crise et ne pas pouvoir être dans le groupe, dans ces contenants, mais ne pouvoir jouer que juste en dehors, par exemple par là, en dessous des tables, ou passer en dessous des chaises, et voilà. Donc chaque enfant choisit sa manière. La plupart des enfants, d'habitude, comme tous les enfants, voyagent entre les manières. C'est-à-dire que choisissent des manières métissées de faire dans les groupes et donc passent entre l'action et l'écoute, on va dire, entre les jeux et la manière sérieuse d'écouter ou de répondre à la thérapeute principale quand elle est interrogée. Donc, ce que je vais faire, c'est vous parler tout particulièrement, vu que le temps, on va sauter les slides plus explicatives, on va parler tout de suite d'une de ces enfants, qu'on va appeler Vijaya, et de la maison perdue, ou on pourrait dire de la maison des rêves. Alors, je vais vous présenter cette famille et cet enfant au travers le génogramme de la famille, mais surtout, on va essayer de voir la famille et cet enfant au travers ses dessins, à la place de le voir de la place de la parole ou des mots dits par les parents. Donc, la famille. Alors, c'est une famille tamoule qui vient du Sri Lanka, d'un petit village au nord, dans le Sri Lanka. C'est un tout petit village, donc finalement même les voisins font partie de la famille. Tout le monde se connaît, nous dit les parents. Donc messieurs, que vous voyez, c'est pour ça que je tiens là. Vous voyez le mouse? Ouais. Alors, messieurs, c'est mari un premier avec une dame. Et ils ont 3 enfants. Messieurs, à cause de la guerre, doit partir vite, répentinement, pour la France, en 81. Donc très jeune, il a 22 ans. Il a déjà 2 enfants, il n'aura une autre en France. Sa femme, madame, va le rejoindre quelques années plus tard, à Paris. Donc, madame, malheureusement, a eu une attaque cardiaque au bout d'un moment. Elle a été hospitalisée et à cause des transfusions mal passées, elle était affectée par le sida. Maladie que lui fait vivre 10 ans incroyablement douloureux pour elle et pour toute la famille, jusqu'à son décès en 1994. Madame avait choisi, vu la culture tamoule d'où elle vient, elle avait choisi sa sœur, sa petite sœur, comme deuxième épouse de son mari. Donc elle appelle quelques jours avant son décès, elle appelle sa sœur et lui demandant de venir rejoindre son mari et ses enfants en France à Paris pour prendre sa place. Et donc, vous voyez, madame, la sœur, que n'était pas du tout d'accord, ne voulait pas. Elle vivait bien chez elle, en Sri Lanka, dans la maison des familles. Elle s'occupait de sa mère, de son père. Elle s'occupait du petit frère. Et elle ne pensait pas du tout à prendre mari, à se marier. Elle pensait que sa vie, c'était là. Donc elle refuse au début. Mais la mère des deux sœurs prend place dans l'histoire. Elle était venue en France, elle avait rejoint sa fille en France pour l'aider à s'occuper de toute la famille pendant cette maladie gravissime. Et c'est elle qui va convaincre, par téléphone parce qu'elle est en France, sa jeune fille, et lui disant, il faut absolument que tu viennes, c'est la volonté de ta sœur. Elle continue un peu à s'opposer quand même, madame. Et alors, il y a l'intervention du frère, du petit frère, le seul frère de la fratrie, qui dit, non, il faut, c'est ta place, c'est ton rôle, il faut que tu ailles. Et voilà, madame y va. Madame y va, et c'est le 95. Elle s'occupe de la première fratrie, et elle aura, avec messieurs, 3 autres enfants. Et nous, on reçoit la famille pour la dernière, la petite cadette, Vijaya. Vijaya, en fait, arrive à la consultation transculturelle parce qu'il y a eu tout un parcours, en fait. L'école, depuis l'école maternelle, est très inquiète pour elle parce qu'ils disent qu'elle a un enfant très sage, très très sage, mais qui amène une tristesse avec elle incroyable. C'est presque impossible de la faire parler, c'est presque impossible de la voir jouer, elle est vraiment très très inhibée, et l'école ne sait pas trop comment faire. Et donc voilà, il y a tous les passages conventionnels, l'école appelle l'hôpital, le centre de langage fait une évaluation, on commence un suivi orthophoniste, on commence un suivi dans les années 1 au CMP, au même temps on découvre tout un certain nombre de difficultés de toute la famille qui fait que même les services sociaux et les services sociaux et une assistance sociale et les avocats prennent place dans cette histoire, parce qu'effectivement messieurs arrivés en France avaient beaucoup travaillé et avaient trouvé la manière d'avoir une maison. Pendant la maladie de sa femme, voilà, tout tombe. Et donc, même le fait de pouvoir payer la maison et tout faire, tombe. Au même temps, juste après le décès, monsieur tombe dans une dépression, bien évidemment, hyper grave, qui s'y mélange à l'alcoolisme et qui se mélange à en dépendance au jeu. Donc l'argent se perd et la famille commence à avoir des problèmes par rapport à la maison. Donc on lui enlève la maison, soit par la dette, soit parce que des malentendus, même linguistiques, avec les avocats, les tribunaux et tout ça, fait qu'il perd la maison. Il commence à voyager entre différents lieux où ils essayent de vivre. Donc madame arrive, la deuxième épouse arrive, et se retrouve dedans cette situation. Avec des enfants de sa sœur très grande, avec une manque de maison, et un mari alcoolique et très déprimé, elle aussi en plein tristesse pour le décès de sa sœur et de sa mère après, en 2002. Voilà, ça c'est la situation de la famille au début. On va dire quelque chose sur les voyages. Donc, le voyage de madame en France, on l'a expliqué. Le voyage de monsieur. Monsieur a dû partir à cause de problèmes politiques. Donc, il était réfugié politique ici. Donc, il a dû laisser sa famille très rapidement, sans pas pouvoir y aller pendant une longue période. Et c'est cependant que sa mère meurt. Donc, il nous dit qu'il n'a pas reçu les protections qu'il lui fallait pour pouvoir bien mettre en place cette migration, ce voyage. Donc voilà, vous voyez bien dans quel contexte émotionnel on est pendant les consultations, quand on commence à voir cette famille. Donc messieurs qui nous amènent ce sentiment des mensonges, du fait que la France, que lui s'est fait avoir par la France, pour toute cette histoire de la maison qui le touche fortement. Donc une rage très forte qui couvre un peu cette tristesse incroyable de tous ces deuils importants qu'a dû faire repentiment. Madame aussi nous amène un désespoir total. Le fait de devoir être dans la dette que sa famille lui a donnée à payer, du fait de ne pas même pas pouvoir se rebeller à cette dette. Parce que c'est une dette envers des morts. Et donc, comment on fait pour se rebeller aux dettes envers les morts? Voilà, donc elle est entre le désespoir, la tristesse profonde et le fait de ne pas avoir des réponses à donner à ses enfants. Que lui pose des questions, mais elle ne sait pas quoi dire. Où est-ce qu'on va aller? D'où on vient? Pourquoi on est là? Comment on va faire? Elle ne sait pas quoi dire. Autour de ça, vous voyez, j'ai mis des petits triangles verts là pour représenter les institutions qui sont à côté de la famille. Mais à part ça, la famille s'est complètement éloignée de toute la communauté tamoule ici à Paris. Parce qu'ils disent qu'ils ont trop honte et trop peur de se montrer comme ça aux autres. Alors que dans la communauté tamoule, on sait bien l'importance qu'il y a à faire les fêtes, l'importance qu'il y a à la communauté. Tous les moments importants de chacun sont à partager avec la communauté. Et alors, eux, ne pouvant pas inviter chez eux pour les moments importants, ils ont honte d'aller chez les autres. Et donc, ils commencent à s'éloigner aussi de toute la communauté. Voilà. Donc, les dessins d'Agita. Les dessins de Bijou. Je l'ai écrit là pour me rappeler, mais je vais me tromper. Mais comme mon collègue disait très bien, il y a le secret professionnel, donc si je me trompe, ça fait rien. Donc les dessins de Vijaya. Pendant les toutes premières consultations, on voit bien que les dessins sont très très figés. Là, elle a 8 ans. Par rapport à les analyses de dessins qu'on fait, ça représente des dessins de 4-5 ans. Donc il y a plein, vous voyez, d'images très répétitives, très figées, même si les couleurs sont là. Vous voyez bien, il y a des fleurs, toutes les mêmes, des nuages. Quelque chose qui représente un peu une cage qui enferme, d'où on ne sait pas comment sortir, même si c'est quand même coloré. Elle choisit les couleurs avec une précision incroyable. Et ça aussi, ça a évolué pendant les consultations. Au tout début, elle pouvait essayer les couleurs que sur sa main. Elle avait peur de pouvoir utiliser... Elle a plein de papiers hein, devant elle. Elle avait peur d'utiliser les papiers. Elle ne le faisait que sur sa main. Et après, elle me regardait. C'est moi, en fait, c'est moi que dans la consultation, je joue et je fais les dessins avec les enfants pendant la consultation. Et elle me regardait comme dire, est-ce que je peux ? Je peux prendre ça aussi ? Ça aussi ? Voilà. Et après ça, elle peut se libérer un peu de ça. Voilà, donc les personnages, quand on lui demande de faire des personnages, là, elle a 8 ans et demi. Voilà, vous voyez comment elle représente les personnages. Et elle ne peut rien dire de tout ça, hein. Elle ne peut rien dire de tout ça. En fait, l'évaluation langagière avait montré une grande pauvreté du langage. Elle disait que très peu de mots. Surtout en français, elle pouvait un petit peu plus s'exprimer en tamoul. Peut-être vu aussi que dans la famille, on ne parle que tamoul. Messieurs parlent quelques mots de français, mais madame ne parle que de tamoul. Et voilà, donc la pauvreté de langage est bien représentée sur les dessins avec la pauvreté d'image. D'accord, je vais aller plus vite. Et voilà, on commence avec les maisons. Donc avec l'histoire que je vous ai racontée des maisons, vous voyez bien comme c'est vrai, les maisons, les jeunes hommes sont très importants dans les dessins des enfants. Mais pour elle, tout particulièrement, la maison représente quelque chose qui a un sens tout particulier, un lien avec l'histoire familiale. Donc les dessins commencent à se remplir un peu. Vous voyez l'arbre très petit, les fleurs très grandes. Là, il y a un personnage qui en a des dents des autres. Là, c'était encore impossible de lui demander de nous expliquer les dessins. C'était encore pas possible. Quelque chose qui représente soit une église, soit un cimetière, soit un hôpital. Plein du monde quand même, hein. Plein du monde. Jusqu'à, là on voit bien par exemple le clivage, vous voyez, comme vraiment cette, on peut voir le clivage qu'il y a par exemple, ce qu'on voyait dans le génogramme entre les deux familles. Alors il y a deux petites fleurs d'un côté, deux petites fleurs de l'autre, ne se touchent pas trop, des étages. Alors, jusqu'à on arrive qu'elle peut dessiner des maisons, essayer de dessiner ce qu'il y a dedans, suite à ma demande. Après, une consultation très lourde, avec les parents hyper figés, c'est à partir de là en fait que messieurs commencent à venir un peu moins, mais madame, par contre, commence à établir une vraie alliance avec le groupe, et donc commence à mener ses rêves et ses pensées dans le groupe. Donc là, on commence avec une maison beaucoup plus représentative. Il y a beaucoup plus de choses, et là je lui demande, est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a dedans ? Elle lui dessine ça, et me disant qu'à chaque étage, ça c'est sa maison des rêves, à chaque étage c'est pour chaque composant de la famille. Mais je lui dis, mais il y a trop du monde, il y a trop de choses, c'est quoi cette arrange ? Je commence à lui poser quelques questions vu qu'elle parle. Vu qu'elle elle me raconte, elle me parle. Alors elle me dit qu'il y a des fantasmes. Des fantômes. Pardon, je traduis de l'italien. Il y a des fantômes dans la maison. Et effectivement, au même temps, madame était en train, juste avant, madame racontait au groupe des rêves qu'elle faisait avec sa sœur et sa mère qui venaient lui amener des messages. Et voilà. Et en même temps, Vijaya nous raconte des fantasmes qu'il y a dans la maison, dans sa maison des rêves. Donc vous voyez bien comme le dire dans le groupe et l'action et le faire de l'enfant vont ensemble. C'est vraiment le dessin, c'est la représentation vraie des pensées. Un lien avec l'histoire de la famille qui nous montre l'importance aussi du contexte. du contexte dans le sens latin du terme, cum texto, ce qui va avec ce qu'on dit. Donc le fait qu'elle puisse dessiner au même temps que la famille est en train de parler et de raconter son histoire. Là, effectivement, les histoires continuent. Et donc, la fois d'après, elle peut nous raconter d'une famille qui était au parc, qui finalement, non, ils n'étaient pas au parc, ils avaient peur. Les filles ne connaissaient pas les garçons. Non, oui, ils se connaissaient, mais finalement, ils ont peur l'une des autres. Non, mais les filles n'ont pas peur. Mais ils ne peuvent pas sortir pour aller prendre les oranges qui sont tombées par terre parce qu'ils sont finalement dans une cage. Mais non, ils ne sont pas dans une cage. En fait, ils partent en voyage parce que finalement, c'était des frères et des sœurs. Ils partent en voyage tous ensemble et ils vont dans une plage avec, alors je vais dessiner même les valises, les plages et tout ça. Mais quand ils rentrent à la maison, les parents ne les savaient pas. Ils sont très fâchés, ils les tapent, ils les crient, ils font n'importe quoi avec les enfants. Parce que les enfants avaient laissé un message en disant qu'il allait chez le cousin, alors que ce n'était pas vrai. Mais bon, finalement, le papa appelle la police vient, mais la mère décide de protéger quand même les enfants. Alors tous ensemble, le père s'est convaincu finalement, tous ensemble partent et vont dans la maison qu'ils ont trouvée. Alors là, il y a le long voyage. Et finalement, ce n'était pas des enfants, c'était des monstres. Mais des monstres qui avaient des pouvoirs, qui avaient le pouvoir de se transformer, de devenir tout petit pour s'échapper, et de devenir tout grand pour se protéger et se défendre. Et là, quand il y a le feu vert, ils peuvent aller dans leur maison. Voilà, vous voyez comment ça change le récit de cette fille. Même s'il reste, ça c'est la fois d'après, il reste quand même un désir de perfection et de contrôle et un clivage encore si fort, cette besoin et cette peur en même temps de la cage qui peut l'entourer. Vous voyez, ça c'est le premier dessin. Après, dès que la famille commence à parler, notamment la mère, elle peut se laisser aller à des autres dessins. Alors par exemple, cette fois-là, la mère avait décidé de faire avec nous dans le groupe un rituel pour le décès de sa sœur. Et donc, elle avait amené du lait pour faire une offrande au Dieu pour les... Il y a plein de lettres qui arrivent, de postes aux lettres, de boîtes aux lettres, mais surtout, il y a des fleurs. Et ces fleurs ont des pouvoirs, ont le pouvoir de changer les couleurs. Et donc c'est pour ça qu'effectivement après elle peut faire des cœurs parce que la maison est pleine d'amour, elle me dit. Et il y a plein de fleurs qui vont, tous les petits traits colorés que vous voyez, ce sont les fleurs, qui vont dans tous les personnages qui sont dans la maison et font changer les couleurs de toutes les personnes. Et après elle continue avec les histoires, cette boîte aux lettres toujours très importante, on voit bien le lien qu'elle peut faire avec la réalité. On voit bien que même dans la détresse, même dans la pauvreté qu'il y a dans cette famille, de point de vue émotionnel, mais pauvreté due à la peur, due à la tristesse, due à tous les événements que la famille a vécu, il y a quand même dans cette fille une capacité à l'imagination, à laisser partir la fantaisie, mais en même temps à rester collée à la réalité de la famille, au fait que c'est important pour elle, elle s'interroge sur l'histoire de sa famille, qu'elle connaît, mais elle ne sait pas comment se représenter. Donc là, on voit bien pendant les dessins, elle commence à pouvoir se représenter quelque chose. Et donc les choses de la réalité se mêlent à ses rêves. Et plus madame nous raconte ses rêves, plus elle aussi peut nous raconter ses rêves. Donc là, par exemple, c'est un dessin d'un rêve qu'elle a fait, de pouvoir avoir une grande maison, mais où elle est seule, la pauvre, elle est seule. Mais non, finalement, ce n'est pas moi, c'est une jeune fille. Mais bon, c'est quand même mon rêve, il y a plein de lettres. Elle aimerait habiter là, mais dans la réalité, elle est dans une cabane. Mais quand même, elle peut recevoir des copines. Et alors finalement, les copines ne se connaissaient pas. Ne se connaissaient pas, mais elles ont toutes des petites valises différentes. Parce que chacun amène des choses différentes, elle me dit. Mais elles vont devenir copines quand même, tout de suite. Et après, elles vont rejoindre la maison d'Eléa, que oui, peut-être que c'est ma maison finalement. Et oui. Voilà, donc je pense que tous ces dessins, toute cette histoire nous montrent bien l'importance des enfants dans la consultation. L'importance de donner une place et de faire attention aux enfants, aux dessins, aux mots et aux jeux. Parce que là, je ne vous ai pas parlé des jeux, mais j'aurais pu tranquillement vous raconter tous les jeux qu'on fait. Parce que les enfants font la même chose au travers les petits objets. Mais dans un lieu qui est protégé. D'un côté, est protégé parce que les parents sont là. Donc, ce n'est pas un travail fait au-delà de la famille. C'est un peu comme Marie-Rose nous disait pour les langues ce matin. C'est mieux si on mélange, c'est mieux si on trouve un sens métissé dans les langues, exactement comme dans les suivis. Et alors, c'est bien de pouvoir trouver, dans la consultation transculturelle dans ces cas, mais tous les autres aussi, un lieu qui soit protégé par la famille qui est là, par le groupe qui a cette fonction de contenant très importante, et par quelqu'un qui donne une importance toute particulière au dessin, au récit, au raconte, au rêve des enfants. Voilà. Et je vais peut-être conclure en disant que Vijaya nous montre la force de métissage au travers ses dessins. Et surtout l'importance de mettre en valeur cette créativité des enfants, surtout des enfants des migrants, des familles migrantes, qui ont une créativité toute singulière, toute spécifique et toute différente pour chacune et chacun. Et c'est là, je crois, en regardant bien cette importance, cette valeur, cette créativité, cet métissage que chacun est en train de faire, qu'on peut essayer d'apaiser les enfants. Voilà.
Merci beaucoup Alicia pour cette présentation et désolée de t'avoir un peu précipité. J'ai une petite question à te poser par rapport au choix du prénom inventé de la petite fille.
Alors c'est que j'ai déjà dit le premier.
Oui, non, mais peu importe le premier parce qu'on l'a pas entendu, mais le second. Par contre, j'aurais voulu. C'est un prénom effectivement d'origine tamoule ou
bien
de notre
sûr.
Origine.
D'accord. Alors, okay. Je peux vous dire, j'ai pas choisi le nom. J'ai demandé à une autre co-thérapeute qui est tamoule, qui est du Sri Lanka, de m'aider à choisir un autre prénom qui ait du sens du point de vue de la nomination de l'enfant. Parce que les noms, vous savez bien, c'est important. Et je ne voulais pas venir avec un nom n'importe lequel. Et donc, effectivement, on l'a choisi parce que la racine a du sens dans les deux.
Et quel sens ?
Le sens, ce sont des acteurs très connus au Sri Lanka et qui plaisaient beaucoup à la mère, qui a choisi ce nom pour ça.
D'accord.
Donc les deux sont deux acteurs sri-lankais très 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 connus.